Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 62, chapitre 10. Le père Machado rejetait le spiritisme au rang des simples superstitions. L'Église catholique n'avait nul besoin d'explorer les phénomènes surnaturels. Quant à moi, je commençais à me demander si ce point de vue n'était pas une erreur fondamentale, s'il n'empêchait pas de soulever le voile qui nous entourait. L'Église n'en avait pas moins foi en un au-delà, où la réincarnation de l'homme serait son immortalité dans un monde du bien ou du mal. Et la résurrection à la fin des temps n'était pas moins incroyable. L'Église catholique ne disait-elle pas « il existe un corps physique et il existe un corps spirituel » L'âme ici se rapprochait beaucoup de la description faite dans les écrits de Kardec. L'Église, enfin, n'avait-elle pas poursuivi les revenants et autres fantômes avec force eau bénite et exorciste, dont Hollywood s'était régalé? Intéressant de constater que quelques pères catholiques avaient finalement une réflexion proche de celle de Léon Denisard Rivail, dit Allan Kardec. Une ancienne se répète dans ses biographies. En démontrant que les faits faussement qualifiés de surnaturels sont soumis à des lois, il les fait entrer dans l'ordre des phénomènes de la nature et détruit ainsi le dernier refuge du merveilleux et l'un des éléments de la superstition. Dans la Genèse selon le spiritisme en 1868, Kardec s'efforçait en particulier d'inscrire le mouvement dont il définissait les principes dans une démarche scientifique. Il faut dire, et nous l'avons fait à plusieurs reprises, que l'époque était au scientisme, que la science devait interpréter le monde. Il écrivait qu'au moyen d'élaboration, le spiritisme procède exactement de la même manière que les sciences positives, c'est-à-dire qu'il applique la méthode expérimentale. Ainsi, la théorie était née de l'observation. Il est vrai que Kardec n'avait de cesse de répéter que tous ses écrits étaient des récits des esprits. Rufina Noguerat, bonne maman, fit de même. Je me dis que l'obscurantisme était peut-être du côté des matérialistes qui refusent catégoriquement toute tentative d'explication spirituelle. Pour la première fois, auparavant toujours du côté des agnostiques moquant les croyants, je me demandais si l'attitude la plus ridicule n'était pas celle du déni total. J'avais notamment été frappé par une courte discussion avec un homme d'un grand âge qui habitait dans mon immeuble. Il faisait de fréquents séjours à l'hôpital et ses forces, visiblement, l'abandonnaient. Je l'avais croisé deux fois sur la petite terrasse au-dessus de la piscine, étendu sur un fauteuil. On l'avait sans doute mis là pour prendre le soleil. À sa demande, sans aucun doute, tant il m'a paru évident lorsque je lui parlais qu'il avait gardé toute sa tête et son autorité. Les échanges furent aimables. Il ne se gêna pas pour me dire qu'il m'avait jugé comme un interlocuteur digne de ce nom. Il avait 87 ans, était manifestement proche de la fin. Athée bruyant, il me dit combien les croyances étaient des sornettes. Pourquoi n'envisageait-il pas, même comme une simple hypothèse intellectuelle, qu'un au-delà puisse exister? Je pensais à lui comme un paradigme de ce rejet que les non-croyants exercent contre toute spiritualité. Et je me reconnaissais dans cette attitude. N'était-ce pas également un aveuglement, tout du moins un conditionnement, au même titre qu'on pouvait considérer que la religiosité était une marque du milieu, comme disaient les bouddhistes? Si j'étais né dans la même société, mais des années auparavant, ou ailleurs que dans la phrase laïque de la séparation de l'Église, de la France laïque, de la séparation de l'Église et de l'État, n'aurais-je pas soutenu des idées contraires? Dans un effort inhabituel d'entrer dans un autre point de vue, ne devais-je pas reconnaître que souvent les croyants, à l'exception des fanatiques, étaient moins bornés que les athées? Je faillis dire au vieil homme qu'il pourrait peut-être s'intéresser aux religions, mais je me ravisais. De quel droit l'aurais-je fait? En y repensant, je ne me reconnaissais pas. Ne devais-je pas m'interroger moi-même sur le chemin que je faisais au contact de mes recherches, sans en prendre vraiment conscience? Le spiritisme devait marcher avec son temps, avait écrit Kardec, car il ne serait jamais débordé. Si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il était dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révélait, il l'acceptait. Il ne m'apparaissait pas certain que le mouvement ait vraiment réussi cette adaptation. Hormis au Brésil, il était ancré dans le XIXe siècle. Pour commencer, le retour annoncé de Kardec au XXe siècle s'était fait attendre. Son esprit familier dans le Livre des Esprits avait prédit qu'il reviendrait terminer une mission qui ne pouvait être achevé dans cette existence. Tu seras absent pendant quelques années et quand tu reviendras, ce sera dans des conditions qui te permettront de travailler de bonne heure. On pourrait rétorquer qu'il avait très bien pu se réincarner dans un autre pays avec un comportement radicalement di différent qui empêcherait de le reconnaître. Il y avait eu Chico Xavier au Brésil dont on disait qu'il était sa réincarnation. Né en 1910 et mort en 2002, il était extrêmement célèbre dans son pays. Mais pouvait-on dire qu'il avait parachevé une œuvre universelle? Je me rappelais avoir lu que 1910 était justement l'année où Kardec était apparu dans une séance de spiritisme.